pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Voir quelqu'un mourir entre ses mains, c'est toujours une épreuve. Pour avoir travaillé en réanimation, je sais ce qu'il en est. C'est très très dur de voir des gens que l'on soigne, qui se retrouvent malheureusement entre la vie et la mort, complètement désorientés quand ils sortent de réanimation au mieux, des familles complètement déchirées quand ils perdent un proche. Il y a des tas de services d'urgence aujourd'hui qui sont fermés la nuit. Il n'y a pas assez de personnel pour prendre les gens en charge. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On va se retrouver d'un pays comme la France qui était envié pour son système de santé il y a une trentaine d'années. On va se retrouver demain, on va marcher avec quoi? Avec mes médecins du monde? Des camions dans les campagnes pour aller soigner les gens? Des gens qui vont mourir sur le parking de l'hôpital parce qu'il n'y aura pas de brancard pour l'accueillir, pas assez de personnes pour venir le soigner? Est-ce qu'on veut vraiment ça? On rappelle, hein, y a le serment d'Hippocrate, hein, on doit soigner tout le monde. Il y a des sacrifiés.
Des sacrifiés de la santé dans l'un des pays les plus riches du monde. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue dans le premier volet d'une conversation à bâton rompu avec Anita, infirmière urgentiste. Alors Anita, vous l'avez souvent entendue dans cette émission, et souvent en manif, en tant que représentante du syndicat Sud Santé Sociaux. Mais on ne s'était pas reparlé en face à face, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid. Ça fait des années qu'Anita et ses camarades syndicalistes tentent de nous alerter sur les dangers mortels qui menacent et rongent notre hôpital public. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tant en tant que syndicaliste qu'Anita s'exprime ici, mais en tant que soignante et tout simplement être humain qui a mal aux autres et à notre société. Et il y a de quoi être très inquiet, car dans ce soi-disant monde d'après, notre hôpital public va encore plus mal que dans le monde d'avant, dans lequel il était déjà moribond. Et l'épidémie de Covid au cœur de laquelle notre hôpital et ses salariés sont en première ligne, l'épidémie de Covid n'a évidemment rien arrangé, bien au contraire. On en parle juste après les goguettes.
Salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con.
Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter du plancher, il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite.
T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et ben y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe, mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation, j'avais une mode de burn à coûter tant de pognon. Inflation.
Bonjour Anita.
Bonjour.
Ça fait plaisir de te retrouver. On s'est rencontrés il y a une poignée d'années de ça. C'était avant toute cette histoire de Covid. Notre hôpital public allait déjà bien mal. Et on avait fait une série d'émissions de radio avec les copains et camarades du syndicat Sud Santé Sociaux en Touraine.
Et déjà, bien avant cette épidémie, le portrait que vous aviez dressé de la situation clinique de notre pauvre hôpital était déjà terrifiante, sans parler des plans que les brillants managers et autres gestionnaires concoctent pour transformer nos hôpitaux en espèce de ferme des mille vaches de la santé. On en était déjà là avant l'épidémie. À force de battre le pavé ensemble, de faire des émissions de radio, etc., bah on s'est rapprochés, on est devenus copains.
Oui.
Bah c'est chouette. Et merci d'être là aujourd'hui pour nous faire part de ce qu'est ton quotidien et ton analyse, non seulement d'être humain, mais tout simplement d'infirmière urgentiste. Bien entendu, tu restes membre du syndicat Sud Santé Sociaux, mais ce n'est pas en tant que représentante syndicale que tu parles aujourd'hui à ce micro, mais tout simplement en tant qu'Anita.
En tant qu'Anita, individu d'une société qui aimerait pouvoir être un peu plus libre de faire ce qu'elle veut dans la rue aujourd'hui en tant qu'être humain, ne pas avoir à porter de masque, ne pas avoir à craindre pour ma santé, pour la santé de mes proches aussi. Donc là aujourd'hui, c'est important de pouvoir discuter librement de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et des impacts que ça a sur notre société.
On n'a pas fait de radio ensemble depuis le déclenchement de cette épidémie, donc ça fait 2 ans en fait.
C'est ça.
Qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va toi ?
Bah écoute, ça va, on tient la route. Il faut garder le moral, même si, écoute, il y a toujours cette petite peur qui est là quand on sort, quand on fait la fête, quand on est peut-être un petit peu moins attentif à ce qu'on appelle les gestes barrières. Mais malgré tout, on apprend à vivre avec. Mmh. C'est un peu dommage parce qu'on aimerait bien vivre sans, tout simplement. Mais ça va, on tient le coup.
Alors ça pourrait prendre des heures, mais est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vis au travail depuis 2 ans ?
Depuis 2 ans, j'ai vu les choses, on a vu les choses un petit peu évoluer. Alors, on va séparer un petit peu le côté financier de l'hôpital, qui malheureusement, lui, n'évolue toujours pas dans le bon sens. C'est surtout les patients. On ne va pas le nier, hein, la crise sanitaire a mis en évidence beaucoup de choses à l'hôpital et surtout les manques. On les vit toujours. La population qui vient à l'hôpital est toujours très très demandeuse. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont peur aussi de venir à l'hôpital, ce qui est assez nouveau maintenant. La première vague de Covid a été quelque chose de très très stressant, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. C'était un stress énorme, on essayait de prendre le maximum de précautions avec les manques de moyens que l'on subissait. Il faut savoir qu'on n'avait pas assez de matériel pour nous protéger, nous, et pour protéger les patients. Donc c'était encore plus stressant parce que ça remettait en cause nos qualités de soignants, quelque part. Cette peur de pouvoir contaminer des gens qui n'auraient pas dû l'être, cette peur de se contaminer soi-même, cette peur de contaminer nos proches. Donc ça a été énormément de stress. Beaucoup d'ailleurs de soignants ont dit stop à ce moment-là et sont partis de l'hôpital. Parce que non seulement ce non-sens, quelque part, de rendre des soignants, on va dire, transmetteurs de ce virus, c'est pas quelque chose auquel on était habitué. Donc, on l'a vu, hein, notamment dans les régions du Grand Est, hein, où les contaminations de soignants ont été énormes. Il y en a même certains qui en sont malheureusement décédés. Ce qui n'a pas fait beaucoup de gros titres. Hein. La presse s'est bien chargée d'éteindre un petit peu tout ça. Quand je parle de presse, je parle des presses de merde, du style BFM. Donc ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. On a eu l'été où il y a eu une petite accalmie, mais pas tant que ça, parce qu'il a fallu rattraper le retard de toutes les autres pathologies. Hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu le Covid. Mais le Covid n'a pas arrêté tout ce qui était cancer, tout ce qui était soins cardiaques, tout ce qui était pathologie chronique. Tout ça, ça n'a pas été arrêté. Sauf que la prise en charge, elle, a été arrêtée. Donc, il a fallu essayer de rattraper au mieux ce retard. Et puis, on s'est pris la deuxième vague. Et puis, on s'est pris la troisième. Et puis, la quatrième. Et là, on arrive vers la cinquième. Donc, on appréhende un petit peu plus ce qu'est ce virus. Nos gouvernements ont enfin appris qu'il nous fallait du matos, ce qui est déjà pas mal. Et puis, malheureusement, on subit encore les manques. Et surtout, on subit le manque de personnel parce que beaucoup ont lâché prise, quoi.
Le 16 juin 2020 est pour moi une date importante parce qu'elle marque un basculement philosophique et politique. 16 juin 2020, c'était la première manifestation de personnel soignant après la première vague.
Ouais.
Je t'avoue que j'avais nourri un espoir un peu fou de me dire, est-ce que cette épreuve, cette épidémie, va être une porte d'entrée vers la prise de conscience de la préciosité de nos services publics, de ce qui a été conquis pour nous par nos anciens, non seulement le service de santé, mais aussi la retraite des parents, l'école, les transports, les machins. Et sans trop y croire, mais j'espérais un peu y croire quand même, en me disant, bon, est-ce que cette épreuve collective va, chez certains en tout cas, apporter la conscience que nos services publics sont des trésors. Et à commencer par cet hôpital, notre hôpital, qui était en première ligne, voilà, et sur lequel en fait tout le monde compte. Hein, parce que même si on ne s'abaisse pas forcément à manifester avec les infirmières et les personnels soignants, qu'est-ce qu'on est content de le trouver, l'hôpital, quand on en a besoin. Et ce 16 juin 2020, bah oui, il y avait du monde dans les rues, hein, y avait des visages qu'on ne connaissait pas, il y avait certainement quelques joueurs de casserole de 20 heures. Mais quelle cruelle déception ça a été que de voir que toute la ville n'était pas là, en fait. Je m'y attendais sans m'y attendre, tout, mais j'ai trouvé ça un peu dur. Je parle de cette date-ci parce que j'ai discuté avec certains de tes collègues, et notamment urgentistes. Mm-hmm. Bah, y en a qui avaient les traits tirés et qui étaient bien tristes, sans se répandre. Ils m'ont dit qu'ils avaient vécu des choses bien dures, qu'il y a des gens qui sont morts entre leurs mains. T'as vécu des choses dures, toi ?
Moins, parce que je suis un petit peu protégée, je suis moins fréquemment aux urgences que mes collègues. Mais si, il y a quand même, j'ai eu du stress. On a eu quand même des patients qui allaient vraiment pas bien. Je sais que certains sont arrivés à l'hôpital, sont repartis directement en réanimation. Pour avoir travaillé en réanimation, je sais ce qu'il en est. C'est très très dur de voir des gens que l'on soigne, qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent malheureusement entre la vie et la mort, complètement désorientés quand ils sortent de réanimation au mieux, des familles complètement déchirées quand ils perdent un proche. Voir quelqu'un mourir entre ses mains, c'est toujours une épreuve. On se blinde.
Ça t'est arrivé ?
Ça m'est arrivé. On se blinde, certes. On essaie de se protéger, mais on peut pas dire que ça nous affecte pas. Parce que de toute façon, si ça nous affecte plus, faut plus être soignant. C'est pas la peine. C'est quelque chose que l'on prend, qu'on absorbe, je vais dire. On essaie de le planquer dans un tout petit coin de sa personnalité, mais c'est toujours là. Et à chaque nouveau décès, ben, ça en fait un de plus. Ce qui explique un petit peu certainement le ras-le-bol de certains collègues qui ont vu trop de gens mourir et qui se sont dit, il y a un moment, si je m'en vais pas de là, c'est moi qui vais y laisser ma peau et c'est pas la peine.
Comment on fait d'ailleurs en sortant du travail? Est-ce qu'on peut, comme un porte-manteau, accrocher sa journée de travail dans un placard et puis retourner dans sa famille
On peut pas. Mais on peut pas, ça. C'est quelque chose, qu'importe la journée qu'on ait vécue, c'est quelque chose, comme je dis, on l'emporte avec nous. On essaie de l'atténuer, on se met des barrières parce que on se dit qu'on est vivant. On se dit que nous, on a cette chance-là, qu'il faut qu'on en profite, justement. Moi, après avoir vécu certains décès, j'avais qu'une envie, c'est de profiter de la vie. Justement, à contrario, c'était de profiter de la vie. Profiter de mes enfants, moi, ce que je dis souvent et ce que je répète très régulièrement, c'est qu'il faut profiter des petits bonheurs. Et ces petits bonheurs-là, ils sont précieux. C'est ça qui me raccroche et qui me permet aussi de dire je continue mon boulot parce que quelque part, c'est soigner des gens, c'est aussi leur permettre d'avoir l'accès à ces petits bonheurs aussi plus tard, en famille. Parce que on ne soigne pas qu'un patient. Il n'y a pas qu'un patient. La patient, il y a toute la sphère sociale autour. Il y a tous ses proches, il y a toute sa famille. Et soigner quelqu'un, c'est apporter du bien à tout le monde. Et ça va bien au-delà.
Au cours du premier confinement, je suis tombé parfois à la radio. De par le manque de moyens, les fermetures de lits, etc., bah, j'entendais des débats qui finalement me semblaient ressembler à une espèce d'eugénisme social ou économique. Bah, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de lits. Vu que les managers et les gouvernements successifs en ont fait fermer des milliers, j'ai été terrifié d'entendre à la radio des gens qui débattaient sur finalement, bah, on ne peut pas sauver tout le monde. Et donc les moyens, le peu de moyens qui nous restent, eh bien, vaut mieux les consacrer à des gens dont on est sûr qu'on va pouvoir les sauver, en sacrifiant d'autres. J'écoutais ça, je me pinçais, je me dis, mais c'est pas possible, je n'entends pas ce que je suis en train d'entendre. Il y en a qu'on va sauver et pas d'autres. Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu ?
Oui, oui, et ça s'est passé. Devant un hôpital qui est devenu moribond, faute de politique budgétaire monstrueuse depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, où faut faire du fric avec la santé des gens. On n'avait plus les moyens de soigner tout le monde, mais ça se passait déjà avant le Covid. Et le Covid n'a fait que amplifier un petit peu tout ce qu'il a pu amplifier sur la prise en charge des usagers à l'hôpital public. On ne met plus les moyens. Si on sait qu'on ne peut pas sauver la personne quelque part, on va mettre moins de moyens, on va juste lui permettre d'accéder à des soins de confort, mais on ne va pas tout mettre en place. Il ne faut pas tomber non plus dans l'acharnement thérapeutique, attention, parce que on pourrait nous l'opposer aussi, de dire on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas s'acharner à sauver tout le monde. Mais quelque part, là, il y a eu des choix qui ont été faits, parce que en fonction des comorbidités, en fonction de l'âge, en fonction de... J'espère qu'il n'y avait pas cette connotation sociale, parce que c'est déjà immonde, mais ça sera encore plus immonde de penser qu'en fonction de ton statut social, tu mérites mieux qu'un autre. Mais il y a eu déjà des choix de fait pour pouvoir donner plus de moyens et plus de chances à, on va dire, à une personne jeune qu'à une personne vieille, à une personne qui est moins malade, qui a moins de comorbidité, qu'à une personne qui est chronique, comme on les appelle, avec des pathologies qui peuvent être déjà lourdes. Mais ça s'est réellement passé. Et ça se passe encore. Ça se passait avant, ça s'est passé là, et ça se passe encore. Il ne faut pas se leurrer. C'est quelque chose dont on ne parle pas, parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas beau. Ça ne donne pas une belle image de la France. Hein. Égalité, normalement, sur nos mairies. Hein. Mais on n'est pas égal même devant les soins, on n'est pas égal.
Comme disait Coluche, il y en a qui sont plus égaux que d'autres.
C'est ça, c'est ça.
Je suis assez terrifié parce que philosophiquement, alors peut-être qu'il y avait déjà ça qui était en germe, qui était déjà prêt, mais mon père, qui a 73 ans, s'est pris dans la gueule une fois, de toute façon, toi, t'as déjà bien vécu, ma foi, si tu claques un peu plus tôt que prévu, c'est pas très très grave, quoi. Et je me dis, mais c'est dingue qu'on en arrive à pouvoir formuler
des propos pareils, alors que on est là, on rappelle, il y a le serment d'Hippocrate, on doit soigner tout le monde, qu'importe son statut, son vécu, sa pathologie, mais malheureusement on est aussi arrivé dans une société où on a un tel manque là de moyens au niveau des services publics que il y a des sacrifiés. On arrive à un moment où moi je le vois aux urgences, où des gens qui sont dans vraiment de la misère sociale. Parce que ces gens-là, je vais le mettre entre guillemets, ne valent pas grand-chose. Hein, en termes de poids économique, on va peut-être leur apporter un petit peu moins de soins. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on va leur faire ? On va leur permettre de retourner dans la rue derrière ? C'est monstrueux de pouvoir dire ça et de l'entendre et de le vivre au quotidien. C'est aussi difficile que de vivre le décès d'un patient, tu vois. C'est un décès social. C'est dommage, mais c'est un peu ça. Alors que normalement, l'hôpital public, celui dont j'aimerais faire partie, c'est celui qui pourrait apporter des soins à tout le monde, qu'importe son statut social, son niveau, son mode de pensée, parce qu'on soigne des cons aussi, on soigne des gens qui sont sympas, on soigne des gens qui sont bien pensants, on soigne aussi des cons. Faut qu'on fasse, nous, en tant que soignants, faut qu'on fasse abstraction de tout ça. Et j'espère pouvoir encore le faire pendant des années, abstraction de tout ça. Continuer à soigner le maximum de personnes. Apporter, quand je dis soigner, c'est pas forcément des médocs. C'est apporter du bien-être. C'est juste discuter, des fois, c'est le meilleur soin possible.
On l'a déjà dit ça dans une série d'émissions précédentes, c'est qu'effectivement le soin c'est aussi du temps et de l'humanité et de la parole et de la présence et de la chaleur humaine.
C'est ça. Aussi. C'est une dimension très holistique, très complète. Alors, il y a des soins techniques. Moi, en étant infirmière, on apprend cette technicité, ça s'apprend. Je repense à Tapi qui disait il y a quelque temps, on peut former des infirmières en 3 mois. Parce que c'est vrai que la technique, ça s'apprend. C'est des gestes classiques. Mais il n'y a pas que ça, heureusement qu'il n'y a pas que ça d'ailleurs, parce que sinon on pourrait nous remplacer bientôt par des robots, je pense, ça serait pareil. Mais il y a toute cette dimension du rapport à l'autre où on échange. Un soin, c'est un soin technique accompagné d'une relation beaucoup plus proche où on va poser des questions au patient, mais on va l'écouter. Parce qu'il y en a beaucoup qui posent des questions mais qui n'écoutent pas. Donc on va écouter, on va entendre la souffrance. Et la souffrance, c'est pas forcément que quelque chose de physique. C'est aussi une souffrance psychologique. Et là, t'as toute cette dimension de discussion finalement, d'échange. Où de par ton vécu aussi, moi, mon vécu personnel aussi, je vais pas apporter la même chose qu'une de mes confrères. Parce que... on n'a pas la même façon d'aborder le patient, et avec certains patients ça va mieux se passer qu'avec d'autres. C'est toute cette relation aussi psychologique qui fait que le soin, c'est compliqué. Ça ne peut pas être que de la technique.
Et malheureusement, ce temps, cette humanité, machin, ça ne rentre pas dans les courbes et les statistiques des managers.
Non, parce que ça rapporte pas. Au contraire, ça coûte. Ça coûte. C'est pas quelque chose de tangible. On peut faire une prise de sang qui va durer 3 minutes 50. Hein, et puis, il y en a une qui va peut-être durer une heure parce que le patient, il a ce moment-là où il sait qu'il a toute l'attention de la personne qui est à côté de lui et qui va en profiter pour pouvoir expliquer pourquoi il est là, son vécu. Et puis on va peut-être déceler qu'il y a finalement il y a autre chose que la prise de sang qu'il faut faire. Et ça, malheureusement, ça coûte à l'hôpital, parce que pendant ce temps-là, vous comprenez, vous n'êtes pas en train de faire la toilette du patient d'à côté, et il faudrait plus de monde pour pouvoir prodiguer des soins de qualité comme ça.
Et pourtant, tu nous l'as déjà expliqué, une société en bonne santé, d'un point de vue capitalistique, c'est une société qui rapporte.
Mais bien sûr. Bien sûr.
En fait, les capitalistes qu'on les manette, là, en fait, font un très mauvais calcul.
Ils se plantent complètement, même.
D'ailleurs, je pense que les patrons ont bien compris qu'un ouvrier mort travaille moins bien qu'un ouvrier vivant.
Oui, ils l'ont vu là déjà, de toute façon, pendant la première vague, tous ces ouvriers qui ont été contaminés, qui ne pouvaient plus aller au travail et tout, ça les mettait un petit peu quand même dans la mouise. Nous, en tant que soignants, on a même entendu que finalement, même porteurs du virus, il fallait quand même qu'on vienne travailler. C'est que on avait quand même une valeur financière qui était assez importante. Donc, finalement, ils se sont peut-être aperçus qu'il fallait peut-être nous apporter un petit peu de bien-être pour qu'on ne soit pas contaminés déjà, donc avec du matos, déjà, ce serait pas mal. Et puis, ils ont mis des cellules de crise pour qu'on soit écoutés, entendus et tout. Qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que ça n'a servi à rien, mais qu'est-ce que c'était beau. Depuis le temps qu'on leur disait ce dont on avait besoin et qu'ils ne nous avaient jamais écoutés, là, pour une fois, on avait la parole. Bon, c'est pour ça que, comme tu rappelais, cette date du 16 juin a été si suivie, si importante. On a même failli y croire, parce que malheureusement, elle s'est vite arrêtée. On nous a proposé des primes qu'on a prises, parce que malgré tout, c'est des sous et que, comme tout à chacun, on en a besoin. C'était pas grand-chose, parce que c'était juste ce qu'on nous devait depuis des années, qu'on ne nous avait pas donné encore. On a gagné 183 euros. 183 euros. On est passé de la 26e place des classements de l'OCDE, donc en termes de rémunération pour les infirmiers, on est passé de la 26e à la 19e sur 30. Donc on ne va pas non plus dire que on a gagné la panacée, je suis désolée. Mais malgré ça, le gouvernement avait réussi son coup de com' là-dessus, faut pas se leurrer. Les accords du Ségur, le fameux Ségur, et on en parle encore, c'était juste le premier pan de ces accords qui a été négocié au plus vite, parce qu'il n'aurait pas fallu que la grogne gagne du terrain, tout simplement, et que ce gouvernement soit obligé de payer plus. Donc nous on y avait cru, mais pas tant que ça. On savait que la lutte serait pas gagnée le 16 juin, qu'il faudrait continuer, mais malheureusement, ces 183 euros ont réussi à faire le travail de sape, c'est-à-dire que dès lors qu'on parle des sous, le Kidam dit pourquoi vous êtes pas content, vous avez gagné une augmentation, quoi.
C'est vrai, il y a des gens qui disent ça.
Ah ouais. Vous avez eu des sous et vous continuez à râler encore? Bah, je comprends pas. Moi, j'aurais bien aimé les avoir, les 183 euros. Mais voilà, moi, je l'ai entendu. Hein. Ça fait mal, quoi, parce qu'on réclamait pas que ça. Et c'était même pas la première chose que l'on réclamait, bien souvent. La première chose qui est réclamée depuis des années, parce qu'on continue à la réclamer, hein, c'est l'arrêt des fermetures des lits. C'est des moyens pour pouvoir soigner. Il y a du matos, des effectifs. Ce dont on manque cruellement aujourd'hui, ce qui fait que de l'hôpital en difficulté, on est passé à un hôpital moribond, et puis là, franchement, je sais presque qu'on est à terre, quoi. On manque cruellement de collègues. On ferme encore des lits qui n'étaient pas fermés. On les ferme parce qu'on n'a plus assez de collègues pour travailler. On n'a plus assez d'infirmiers, on n'a plus assez d'aides-soignants, on n'a plus assez de médecins. Je discutais avec des collègues du CHU d'à côté, là, du CHU d'Angers, où les urgences, médecins des urgences, sont plus assez nombreux pour prendre en charge les urgences. Il y a des tas de services d'urgence aujourd'hui qui sont fermés la nuit parce que il n'y a pas assez de personnel pour prendre les gens en charge. Mais où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? On va se retrouver d'un pays comme la France qui était envié pour son système de santé il y a une trentaine d'années, on va se retrouver demain, on va marcher avec quoi ? Avec mes médecins du monde ? Des camions dans les campagnes pour aller soigner les gens ? Des gens qui vont mourir sur le parking de l'hôpital parce que il n'y aura pas de brancard pour l'accueillir, il n'y aura pas assez de personnes pour venir le soigner ? Est-ce qu'on veut vraiment ça ? Moi, c'est toute mon inquiétude hein, de demain, de me dire en tant que soignant, est-ce que je vais vivre ça ? Mais bien plus égoïstement, en tant que patient, parce que c'est pas parce que je suis infirmière que je suis complètement immunisée contre toutes les pathologies. Hein. Demain, est-ce que moi, le jour où je suis prise en charge aux urgences, qu'est-ce que je veux comme prise en charge ? Est-ce que je pourrais me faire soigner ? Est-ce que j'en aurai les moyens ? Est-ce que l'hôpital public aura les moyens de me soigner ? Et là, aujourd'hui, moi, c'est ma grosse, grosse interrogation, c'est ma grosse peur. Et c'est ce qui me motive encore plus à aller dans la rue pour continuer, malgré la démotivation de certains collègues qui n'en peuvent plus, malgré le fait de statut de héros que nous étions lors du premier confinement à celui de zéro, hein, comme je l'ai dit, hein, parce qu'il y a eu des moments là où franchement on était devenus des salauds qui filions le Covid à nos patients, ou qui filions n'importe quelle maladie, hein, parce que ça marche aussi avec les autres. Hein. Donc, malgré tout ça, je me dis qu'il faut continuer à se battre parce que ça en vaut le coup, parce qu'on ne peut pas baisser les bras humainement, on ne peut pas baisser les bras. Il faut continuer parce que demain, ça risque de toucher des gens qui nous touchent, nous, ça risque de nous toucher plus personnellement. Pas possible.
Bon, on va faire une pause dans cette conversation avec Anita. Ça risque de ne pas faire rire tout le monde, mais je ne résiste pas au plaisir très égoïste de vous imposer un peu de la délicate poésie de Didier Super.
On va tous crever, on va tous crever, y a la fin du monde qui nous guette, et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend, et ce coup-ci on y est vraiment. Depuis le temps que les vieux y crèvent dans les hospices et qu'on s'en branle, blague maintenant pour les sauver, on bloque l'économie mondiale. Du coup, y en a qui flippent tellement, ils rachètent tout le papier toilette. Peut-être qu'ils croient qu'en mourant le cul propre, y'a plus de chances qu'on les regrette. Et on va tous crever, on va tous crever, on le sait et on n'en a rien à foutre. On va tous crever, on va tous crever. Le monde sera bientôt détruit et nous, on regarde plus belle la vie. Entre le réchauffement, les guerres, les épidémies, y'a plus que les témoins de Jéhovah qui ne doutent pas de leur survie. Mais si ça se trouve, c'est pas des cons. Quand ils prient leur sauveur, c'est pour avoir un mode d'emploi pour fabriquer des bunkers. Et on va tous crever, on va tous crever, on le sait et on n'en a rien à foutre. On va tous crever, on va tous crever. Le monde vit ses dernières heures et nous, on est sur Tinder. On va tous crever, on va tous crever. Peut-être pas de leur virus à la con, mais de la sale crise qui vient derrière.
Oui, bon, d'accord, Didier Super, c'est pas toujours très fin, mais des fois, ça me fait du bien. L'épidémie de Covid aurait dû être l'occasion de comprendre que nos services publics, et notamment l'hôpital public, sont des trésors conquis de haute lutte par nos anciens et qu'il nous faut absolument préserver. Hélas, c'est comme si l'épidémie, ses confinements et autres conséquences nous avaient au contraire recroquevillés sur nous-mêmes, renforcé les individualismes et l'irrationnel. Et l'hôpital public qui était déjà mourant avant la Covid, notre hôpital va encore plus mal qu'avant. On est toujours avec Anita, infirmière urgentiste.
Je suis évidemment très admiratif et très reconnaissant aux soignants de nos hôpitaux publics. Là où je suis très attristé, mais c'est pas nouveau, c'est par mes contemporains, mes copains, mes voisins. Quand je te dis que ce 16 juin 2020, j'ai été cruellement déçu, même si je m'attendais un peu à ce que ce soit pas une marée humaine, là on est à Tours. C'est une agglomération d'environ 300 000 habitants. Il devrait y avoir minimum 50 000 personnes dans la rue pour soutenir notre hôpital, quand on a l'impression que la majorité de la population ne semble pas avoir percuté qu'on a besoin de nos services publics, et là, plus particulièrement de notre hôpital. Et puis bon, tu vois, c'est un peu chiant d'être un peu le commissaire politique, là, qui agite des petits livres rouges sous le nez pour les culpabiliser. Tu vois, vous vous rendez compte, hein, vous êtes très content, hein, de trouver un hôpital quand vous en avez besoin, mais vous allez quand même pas vous abaisser à descendre dans la rue avec les connards de communistes pour le défendre, hein, vous laissez ça aux autres. Donc tu vois, je pense que tes collègues et toi et les autres, vous faites ce que vous pouvez. Alors bon, après, il y a toute cette idéologie qu'on nous a mis dans la tête, là, comme disait Sarkozy, hein, aujourd'hui, quand il y a une manif, plus personne s'en rend compte et tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on a encore envie de faire société ou pas ?
Je sais pas, parce qu'on est, arrivé dans un monde tellement individuel, et je vois que moi j'ai été blessée, hein, par certains propos d'usagers, hein, juste en tendant un tract, hein, en tant que soignant. J'ai beau avoir ma blouse blanche, quoi, et on s'aperçoit qu'il y a un moment, même cette blouse blanche, elle était bien vue au début, et puis au fur et à mesure, on est en train de dire « Mais arrêtez, vous êtes tout le temps en train de râler » et tout ça. Moi, j'estime qu'il faut continuer à râler, déjà. Il paraît que ça nous fait vivre plus vieux. Donc, je vais continuer à râler.
Je suis pas centenaire.
Centenaire, c'est ça. Et puis, parce que j'estime que ça vaut le coup, encore. Comme je dis, moi, je vais rester droit dans mes bottes et je vais continuer à râler parce que j'estime que c'est... Il le faut. Il faut râler pour ce bien public, quoi. C'est même pas public, c'est un bien universel, hein. La santé, c'est un bien universel, quoi. Donc... Il faut continuer à le défendre. Mais c'est vrai qu'on a été désabusés. Hein. Comme tu dis, ce 16 juin, on était 3000 à Tours.
Ah oui.
3000. Le 14 juillet, suite à la signature des accords du Ségur, on s'est retrouvés. On était quoi ? Allez, si je dis 200, je suis vachement optimiste. Ah là, c'est la douche froide. Bah oui, on avait les casseroles à 20h, les applaudissements et tout ça. On n'a jamais demandé ça.
Et tu l'as vécu comment, tu, d'ailleurs, d'entendre des casseroles à 20h ?
Pas très bien, parce que j'avais plus l'impression que on était dans une société où on se dédouane quelque part, de dire bah ouais, j'ai fait ma petite part de bonnes choses parce que j'ai applaudi des soignants, quoi. Mais c'est pas ça, on n'avait pas besoin. La reconnaissance, nous, elle s'exerce quand notre patient, il est arrivé malade à l'hôpital et puis il est ressorti sur ses deux jambes en bonne santé et le mieux possible, on va dire. C'est ça notre reconnaissance. C'est ça le but de notre profession, c'est ça le but de l'hôpital. C'est de soigner des gens, c'est pas d'être applaudi, hein. C'est de soigner des gens. On savait bien, hein. On savait bien que ça allait pas durer. Là, c'était. Je vais comparer ça. C'est va être vachement dur, hein, ce que je vais dire. Je vais comparer ça au Vietnam, où les soldats américains au début, super, c'est nos soldats, nos bons petits soldats. Ils vont aller lutter contre le sale communisme là-bas. Puis ils sont rentrés, c'était des parias. Nous, ça a été exactement la même chose, quoi. On a mené le premier confinement. On était au front, sans armes, sans munitions, on a vécu, on a souffert, on est revenu, et là maintenant, on est les méchants soignants qui filons le Covid à nos patients. Je sais pas comment on peut accepter d'être devenu ça dans la tête des gens, pour certains. Je suis effarée.
Il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau. Si avec tout ça ils tiennent, pas un peu schizophrène. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne.
Je suis désolée, hein, l'obligation vaccinale, pourquoi plus nous que les autres ? nous, on était obligés de se faire vacciner. Alors, je dis pas que je suis contre le vaccin, bien au contraire, et on y reviendra. Je suis pas contre le vaccin et tout ça, bien au contraire. Mais cette image de dire faut que les soignants se vaccinent parce qu'ils sont au contact des patients et ils risquent de les contaminer, ça les a pas effleurés à la première vague quand on n'avait pas de moyens pour se protéger. Et que là, on a réellement contaminé des patients parce que notre gouvernement avait détruit les masques qu'on avait depuis la grippe A et qu'on n'avait pas de moyens parce que ça coûte trop cher que d'avoir des stocks de protection individuelle. C'est tout, que ça coûte trop cher. Ben, c'est juste incompréhensible pour moi d'avoir ce revirement de considération. Et puis, je pense que c'était déjà une préparation de dire, ben comme ça, si demain ils râlent, ben finalement ils seront pas aussi bien vus qu'avant. Ils vont pas pouvoir bénéficier de l'aura de la première vague, finalement, et des casseroles qu'on a pu avoir et des applaudissements qu'on a pu avoir. Moi, je l'ai vécu comme ça, personnellement. Ça fait très mal.
Je suis tombée sur certains de tes collègues. Ouais. Certains étaient très touchés que une partie de la population pense à eux et l'exprime tous les soirs à 20h. Et je suis tombé sur d'autres, effectivement, qui étaient carrément gonflés par ce truc-là. Quoi. Genre, il est bien temps de se rendre compte qu'on est là et qu'on sert à quelque chose. Quoi.
C'est ça. Je me rappelle encore des mots de certains journalistes, la pleurniche hospitalière. Pascal Praud, je crois, pour ne pas le citer. Voilà, on en a marre de la pleurniche hospitalière parce qu'on était dans la rue tous les 3-4 matins. On a juste prouvé que on pleurait pas pour rien, quoi. C'est tout, hein. Oui, on pleure des moyens. On pleure pas sur nous-mêmes. Hein. On pleure des moyens, on pleure des collègues parce que ils nous font cruellement défaut. C'est tout. Et il faut continuer. Aujourd'hui, on pleure encore. Malheureusement, même si on veut faire croire à la population qu'on nous a donné les moyens, c'est faux. C'est faux, on les a toujours pas. On va même aller vers des moments plus compliqués. Là, c'est un petit peu la militante syndicale qui revient. Là, on est en train de nous faire signer des accords. On veut nous faire signer des accords locaux sur ce qu'on appelle le Ségur 2. Pour rappel, Ségur 1, 183 euros. Ségur 2, revalorisation des grilles. On nous promettait monts et merveilles et tout. Moi, j'ai une collègue qui est complètement écœurée. Elle va toucher une augmentation d'un point, un point d'indice. 4,67 € brut de plus par mois. Rendez compte un petit peu de... C'est juste ignoble de se dire que l'augmentation promise, ça va être 1,67 €, quoi. On nous avait promis la revalorisation du travail de nuit. On nous a promis des effectifs, mais bon, il en manque tellement que quand on calcule, sur les 15 000 postes que le Ségur nous promettait, 7 500 sont déjà vacants. Donc on ne trouve pas preneur. On veut nous en donner 7 500 autres. Ça fait 3 par hôpital. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 3 personnes de plus par hôpital sur toute la France? Donc, ils ont décidé de regrouper par hôpital. Donc là, sur Tours, ça nous ferait une trentaine de postes. On a besoin de plus de 100. On est à 11% d'absentéisme en ce moment. Ça inquiète tout le monde. Mais on s'aperçoit que les pistes pour pouvoir régler ça... C'est ce qu'on appelle l'annualisation du temps de travail. Donc on casse les 35 heures. Ça veut dire des heures sup à gogo, donc de la fatigue supplémentaire. Et puis finalement, comme je dis, hein, les arrêts aujourd'hui qui sont remplacés par l'auto-remplacement, c'est les arrêts de demain. Donc c'est juste un cercle vicieux qui ne trouve pas de solution. C'est des primes d'engagement collectif. Ça, j'ai bien aimé ça, ce truc-là. La prime d'engagement collectif, c'est dire à des collègues, faut vous réunir pour proposer des projets pour pouvoir mieux prendre en charge des patients, améliorer la qualité de la prise en charge, mais vous n'avez pas de moyens supplémentaires. Donc, finalement, c'est du travail en plus, mais sans moyens supplémentaires. Mais on va vous filer 100 balles pour ça. C'est sympa quand même, on est quand même sympa, on vous file 100 balles pour ça. Mais il y a un moment, c'est pas ce qu'on demande. Nous, on va avoir des collègues.
J'en suis témoin pour ça fait des années que je suis des manifestations de soignants de l'hôpital public. Le nerf de la guerre, ça n'a jamais été des revalorisations salariales. J'ai jamais vu les infirmières et les soignants descendre dans la rue pour qu'on augmente leur salaire, même si ça doit faire partie des revendications.
Ça fait partie.
Mais ce que j'ai toujours entendu, c'est donnez-nous les moyens de faire correctement notre travail.
C'est ça.
C'est pour ça que vous perdez des journées de salaire à faire des grèves.
C'est ça.
C'est donnez-nous les moyens de soigner les gens. Puis si vous pouviez nous payer un peu mieux, ce serait sympa aussi. Mais en fait, c'est pas ça qui vous fait descendre dans la rue quand vous descendez dans la rue.
La grosse, grosse revendication, c'est des effectifs. Des lits, et puis une sécu qui permet d'avoir des moyens pour pouvoir soigner les gens. C'est-à-dire du matos, quoi. Bah, la question du salaire, oui, si, elle est là quand même, parce que on ne fait pas ça pour rien, et que, faut le rappeler, hein, ça fait 11 ans maintenant que notre salaire est gelé. Donc, il n'est toujours pas dégelé d'ailleurs. Hein, donc, ça fait 11 ans qu'on n'évolue pas au niveau des salaires, alors que tout le reste augmente en termes de coûts et de. Donc, c'est une juste chose. Mais les revendications principales, c'est et ça restera des lits et des effectifs. On ne peut pas soigner si on n'a pas de collègues.
Tu nous l'as déjà dit, mais vas-y, fais-nous rêver. Combien tu gagnes net par mois, toi ?
Avant Covid, je gagnais 1900 balles. Là, maintenant, j'ai la prime, donc je suis à 2100 euros à peu près. Attention, je gagne ça en travaillant de nuit et en travaillant deux week-ends par mois. Si on prend le salaire de base d'un infirmier qui débute, on doit être à 1600, avec la revalorisation de la. Après Covid, on est à 1800 balles, quoi. Voilà. C'est tout.
Et je reviens à l'absurdité du système capitaliste et je me dis finalement cette Covid là, ce virus démontre aussi l'absurdité du système capitaliste, de cet hôpital, de ces services publics qui d'un seul coup sont censés être rentables. Mm-hmm. Tu as parlé tout à l'heure du mot usager. Bon, ils veulent nous transformer en clients.
C'est ça.
Comme pour tout, hein, c'est leur grand projet. Hein. C'est tout marchandisé, l'éducation, la retraite, la santé, enfin tout. Tout doit être converti en fric. Mais seulement, ce virus-là, il ébranle complètement cette logique de l'absurde capitaliste parce que ça ne fonctionne pas. S'il n'y a que les gens qui ont les moyens de se soigner, qui se soignent, eh ben, la société ne peut pas fonctionner parce que même si certains peuvent accéder à des soins, eh ben, ils restent en danger, mis en danger par ceux qui ne peuvent pas y accéder. Bon, si on en soigne certains qui ont les moyens et pas d'autres qui n'ont pas les moyens, en fait, ceux qui n'ont pas les moyens peuvent continuer à contaminer ceux qui ont les moyens. Donc, en fait, c'est complètement débile.
C'est
ça ne fonctionne pas.
C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui n'auront pas accès à la santé demain, finalement, bah déjà, ils seront plus productifs. Hein, quelque part, il y a un moment où, pour parler très capitaliste, ce ne seront plus des producteurs de profits dont nos grands pontes font l'usage. Quoi. Il faut avoir une société en bonne santé. De la base jusqu'en haut. De toute façon, s'il y a un rouage qui pêche, c'est toute la société qui se casse la gueule.
C'est vrai que le virus, lui, il n'a pas conscience de ce que c'est que la lutte des classes.
Non.
Je pensais par exemple au temps de la peste, quand le domestique a la peste, il peut la transmettre au maître.
C'est un peu ce qui s'est passé là, quelque part. On les a vus, hein, ces grands. Même notre président, quand même, a eu le Covid. Hein. Il n'est pas super protégé, quand même, face à ce genre de choses. C'est ce qui a mis un petit peu sur un point d'égalité un petit peu tout le monde, ce virus. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la santé, elle est importante pour tout le monde. Ça serait con, quand même, que des petits ouvriers aillent contaminer des grands patrons. Ben, ces grands patrons, malgré tout, ils ne peuvent pas vivre tout seuls dans leur tour de verre s'ils n'ont pas ces petits ouvriers qui leur apportent leur fric. Donc, il faut continuer à les maintenir en bonne santé. D'où les plexiglas qu'on a pu voir dans toutes les supermarchés et dans toutes les entreprises pour protéger. Ils ont été obligés de mettre en place des choses pour protéger leurs employés. Pour nous protéger, nous, c'était notre blouse, hein, notre surblouse. Dans la société, c'est ce qu'on voit, ces plexiglas, ces gants qui ont été distribués à foison. C'est voilà. Mais je sais pas comment le formuler, mais c'est vrai que la maladie, c'est quelque chose qui vous met sur un pied d'égalité quelque part. Heureusement encore qu'on a ça, parce que sinon, l'eugénisme dont tu disais tout à l'heure, dont on pouvait faire preuve, il se ferait aussi à un niveau social. Et là, ça serait encore plus grave. Donc, heureusement que cette maladie, finalement, elle met tout le monde sur ce pied d'égalité, quoi. C'est peut-être la seule chose qui nous reste, d'ailleurs.
Anita, là, dans ce que tu disais tout à l'heure, là, tu as fait des constats extrêmement choquants sur le fait que, notamment, que vous avez été des super-héros, que tout le monde vous a adoré, et puis que finalement tout ça n'a pas duré très très longtemps, forcément. C'est pas exactement une question, mais ça me fait penser à un truc que j'ai vécu hier. J'aime beaucoup l'équipe de caissières qu'il y a à l'Intermarché à côté de chez moi. Mm. Elles ont du mérite, elles avaient déjà du mérite dans le monde d'avant, hein, si tu veux, toujours de bonne humeur. Et hier, j'ai fait un peu de course et j'ai discuté avec l'une d'entre elles. Je lui ai dit, vous savez, j'avais déjà de l'estime et de l'admiration et de la reconnaissance pour le travail pas facile que vous faisiez déjà dans le monde d'avant. Je vous conserve toute ma gratitude pour le fait que vous soyez resté au front pendant les épidémies et que vous soyez toujours là. Voilà, après, vous aussi avoir été des héroïnes, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et évidemment, la dame était sur son poste de travail, mais elle m'a laissé entendre quand même que chasser le naturiste, il revient au bungalow, ça a été aussi le retour des clients infects, quoi. Comme dans le monde d'avant. Et que finalement, vous êtes des super-héros, ça s'est un petit peu dissipé aussi. Ça fait résonner un peu avec ce que tu disais tout à l'heure. Je lui disais, mais c'est pas possible, faut croire que peut-être les Français n'ont pas eu assez peur pour se rendre compte de ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas. Mais vous aussi, finalement, vous avez retrouvé ça, peut-être à l'hôpital et aux urgences, les gens infectent qui se comportent comme des consommateurs et pas des usagers d'un service public, qui estiment que leur bobo... une de tes collègues là, qui me racontait il n'y a pas longtemps, une bonne femme infecte qui avait déduit en allant sur Internet, sur tartempion.com, qu'elle avait un cancer de je sais pas quoi, du genou, donc elle était prioritaire par rapport... Vous retrouvez aussi ces comportements-là?
Comme avant, hein. On a toujours ceux qui estiment qu'ils sont prioritaires sur les autres parce que leur ongle incarné est plus important que la crise cardiaque de l'autre. Nous, ce qu'on fait aux urgences, c'est qu'on dit, mais si vous attendez un peu plus longtemps que les autres, c'est que vous êtes moins grave. Inquiétez-vous si on vous prend en charge tout de suite, parce que là, finalement, c'est grave. Mais malgré tout, on aura toujours... Ça me fait rebondir ce que tu viens de me dire sur une patiente que j'ai eue pas plus tard que le mois dernier qui venait parce qu'elle avait chuté le week-end et elle venait deux jours après parce qu'elle avait une énorme bleue et tout ça et puis fallait qu'elle devienne prioritaire sur les autres. Oui, mais madame, c'est plus une urgence, quoi. On n'est pas un supermarché du soin, on n'est pas le drive du soin, c'est pas possible. Donc, vous allez attendre un petit peu. Il n'y a pas de caractère d'urgence. Et là, on se prend toute l'agressivité possible. C'est presque mesquin, des fois. Hein. On se fait insulter. Les gens n'ont pas pris conscience que, finalement, d'autres pouvaient être plus importants en termes d'urgence qu'eux-mêmes. Qu'il faut arriver à relativiser son cas à soi-même. Et on est dans une intolérance à la frustration. On voit bien cette société de consommation. Il faut avoir tout tout de suite. Aux urgences, c'est pareil. Il faut que je viens aux urgences. Si je viens aux urgences, comme le nom l'indique, c'est parce que c'est urgent et que je dois être pris en charge tout de suite par la meilleure équipe possible. Quand on leur dit que c'est pas possible, ils comprennent pas. Ils comprennent pas puisqu'ils n'ont pas cette habitude justement de relativiser leur individualité. Ils n'ont pas cette habitude qu'on leur refuse d'avoir tout de suite ce qu'ils ont demandé. On a l'impression d'avoir des fois des enfants gâtés. Et à contrario, on en a certains qui, eux, même s'ils sont graves, vont dire « Non, mais occupez-vous de la dame à côté parce que je crois qu'elle râle, donc c'est parce que ça doit être plus grave que moi. » Et non, c'est faut que les gens apprennent que c'est pas parce que vous râlez plus que vous êtes plus grave. C'est un peu ça qu'il faut arriver à faire passer comme message. Nous, on se base sur nos compétences en termes d'évaluation clinique, hein, en termes de technique aussi. Et donc là, il faut nous faire confiance, il faut apprendre à nous faire confiance Et c'est pas parce que vous râlez plus que vous serez pris en charge plus vite. C'est parce que votre cas est plus grave que vous serez pris en charge plus vite. C'est ça les urgences. C'est ça les urgences. Donc aujourd'hui, il faudrait avoir cette notion de respect. Ça se passerait beaucoup mieux hein, déjà. Pareil, hein, là aussi, il y a le cercle vicieux. Hein. Quand vous arrivez en râlant aux urgences parce que vous n'êtes pas pris en charge plus rapidement, que vous mettez toute votre agressivité sur du personnel qui n'en est pas la cause, ben, ce personnel le vit très mal, que finalement, ce personnel s'en va parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il sait qu'il va péter un câble et qu'un jour, ça va se retourner contre lui. Et que finalement, on se retrouve, on n'est pas assez de personnel pour prendre en charge des urgences. Et voilà. Et donc, le patient va attendre encore plus longtemps. C'est un cercle vicieux, et alors que ça pourrait se passer dans le respect de l'un et de l'autre, et ça serait beaucoup plus serein. Bon, bien sûr, malheureusement, je suis désolée, j'y reviens, si on avait les moyens. Il faut que les gens comprennent que de toute façon, sans des moyens conséquents donnés aux services publics, c'est à tous les services publics, parce qu'on le voit dans tous les services publics, hein, les temps d'attente qui s'allongent, c'est parce que justement, on coûte trop cher. Je le mets entre guillemets, parce que j'estime qu'il y a des choses qui ne coûtent pas assez cher. On coûte trop cher pour pouvoir satisfaire tout le monde dans des temps tout à fait acceptables.
On l'a déjà dit lors de précédents entretiens, ouais. L'hôpital, c'est pas seulement des blouses blanches. Il y a plein de métiers, plein de rouages dans l'hôpital, et c'est comme dans n'importe quel mécanisme, hein. Quand on fait sauter une pièce, la mécanique marche plus, ou beaucoup moins bien. Mmh. Et là, on enregistre cette conversation au début décembre 2021, et il y a quelques jours à la radio, j'entendais, il y avait les ambulanciers, comment on dit ouais.
Nous, on dit ambulanciers parce que ce sont nos collègues. L'administration dit des conducteurs ambulanciers, et ça n'a pas du tout le même impact. Parce qu'on les considère comme des conducteurs et non plus comme des soignants.
Un conducteur, en fait, c'est juste quelqu'un qui conduit son véhicule,
c'est
mais
ça.
Qui n'apporte pas d'humanité au patient, qui
ça.
Ne rassure pas la dame
sur son voilà, car. On lui ôte tout ça. En le restreignant au nom de conducteur, on lui enlève toute cette dimension de soins qui m'est chère à moi, parce que ses collègues sont aussi importants qu'un soignant. Et quand je dis soignant, c'est... aide-soignant, infirmier anesthésiste, médecin. Si nous, toutes ces blouses blanches...
La personne qui remplit les documents administratifs voilà. Quand on voilà. arrive à l'hôpital...
Si nous, cette blouse blanche, elle est portée au nu en disant, voilà, c'est les blouses blanches, tout ça. Il n'y a pas que des blouses blanches à l'hôpital. Et sans la femme de ménage, la SH, qui, elle, ne sera pas revalorisée, hein, là, parce qu'elle n'est pas au lit du patient. Sans l'électricien, qui vient réparer le lit de réanimation, parce que sans lui, le lit ne fonctionne pas. Donc on le ferme, on l'enlève, il n'y a plus de lit dans la chambre. Sans le plombier qui vient réparer la fuite d'eau, qui fait qu'on a fermé un lit aussi. Sans la secrétaire qui n'est pas là pour prendre le rendez-vous, pour avoir l'IRM ou le scanner, ou la prise de sang, ou n'importe, ou l'examen avec le... l'hôpital, il ne tourne pas. L'hôpital, il tourne pas. C'est vraiment un... Il faut voir cet hôpital comme quelque chose de beaucoup plus complet. Il n'y a pas que les blouses blanches. Il n'y a pas que les blouses blanches. Je fais partie des blouses blanches. J'ai cette chance, quelque part, parce que dans l'idéologie des gens, c'est quelque chose de bien. Une blouse blanche, vous vous rendez compte, elle donne du temps pour soigner des patients. Mais si je n'ai pas tous mes autres collègues à côté, je ne peux pas travailler. Donc pour moi, c'est important de mentionner tous ces autres métiers, tous ces autres corps de métiers, que ce soit, je pense à mes collègues de la Sûreté Accueil, qui vous ouvrent les barrières pour accéder aux urgences. Tous ces collègues qui sont... invisibles aux yeux de la société et qui, sans eux, l'hôpital ne fonctionnerait pas non plus. C'est très important qu'ils aient cette reconnaissance, et aujourd'hui, ceux-là ne le sont pas. On les a enlevés, là, des accords du Ségur, parce qu'ils ne sont pas au lit du patient. Mais c'est eux qui font qu'il y a un patient qui rentre administrativement dans un lit et qui sera remboursé. C'est eux qui font que le lit fonctionne. C'est eux qui font que le patient va être transféré d'un établissement à un autre en toute sécurité et dans des conditions humaines. Tout cela sont tout aussi importants qu'une infirmière que je suis, qu'un médecin, qu'un anesthésiste, qu'un chirurgien. Ils sont tout aussi importants. Et sans eux, l'hôpital ne fonctionnerait pas. Donc, je suis un peu effarée de ce rétrécissement visuel qu'on a de l'hôpital. L'hôpital, c'est vraiment un tout et il mérite tout aussi bien que les autres d'être considéré comme des soignants. Pour moi, ils sont tout aussi capables de soins. Une secrétaire qui va rassurer quelqu'un qui vient prendre un rendez-vous parce qu'il ne sait pas ce qu'il a ou quoi que ce soit va être aussi dans cette dimension du soin. Certes, pas par une piqûre, mais par la parole. Et l'accueil fait énormément, un accueil chaleureux et fait tout autant qu'un résultat de prise de sang. Il faut vraiment élargir son esprit et voir que l'hôpital, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que des blouses blanches.
Moi, je trouve un petit peu pessimiste. On peut peut-être miser sur la science et se dire qu'ils sont en train de nous inventer des robots et des algorithmes qui vont être rassurants pour les gens. Le robot qui te prend la main et qui te parle, quoi.
Ce robot, on les a déjà. Hein. Attends, ils vont pas nous les inventer. C'est déjà fait. Hein. Les boîtes vocales qui te prennent en charge quand tu veux appeler ton proche et qui te dit « Donnez-nous le numéro de la chambre et tout, machin. Répétez un. » Si c'est pour avoir votre proche au téléphone. Deux, si c'est pour prendre un rendez-vous. Voilà, ben, on les a déjà. Et on voit bien tout ce caractère humain qu'ont les robots, bien évidemment. C'est ce qu'on va nous mettre aussi dans le nouvel hôpital qu'on veut nous construire. Hein. On va faire en sorte de réduire cette masse salariale qui coûte par des trucs qui, eux, coûteront quand ils tomberont en panne. Qui ne seront pas remplacés parce qu'il n'y aura plus le personnel quand ils tomberont en panne, mais qui seront là pour essayer de gagner du temps et puis surtout qui râleront pas. C'est ça le truc. Ils ne seront pas en capacité de râler et puis et voilà quoi. On déshumanise et c'est horrible de penser que demain s'adresser à un robot sera plus facile qu'à s'adresser à un humain.
Oui, je vois bien la scène. Un, vous inquiétez pas madame, vous n'allez pas mourir. Deux, on va vous donner une main en plastique pour vous raccrocher à quelque chose. Trois, ça va être génial.
C'est super, mais c'est un peu ça qui se profile malheureusement et toute cette dimension psychologique qui s'en va, qui s'effrite, qui va laisser des patients, des gens dans la souffrance psychologique parce que ça ne sera pas pris en charge. Moi, c'est ce sur quoi je lutte. Je continuerai à lutter de toute façon parce que, comme je le dis, je lutte en tant qu'infirmière pour garder cette dimension psychologique auprès de mes patients. Je lutte en tant que syndicaliste parce que cette dimension du soin, elle fait partie aussi de mon travail de syndicaliste. J'apporte du soin à mes collègues en luttant à leur côté, en luttant pour leurs droits, tout ça. J'apporte du soin aussi à mes collègues. Et tant qu'on a encore cette part d'humanité, il faut se battre pour pouvoir la garder, quoi.
Anita, si tu veux bien, on va clore ici le premier volet de cette conversation. Au prochain épisode, on abordera des sujets qui en fâchent certains, puisqu'il y a eu toute cette vague, et il y a encore toute cette vague anti-vax, terreur plus ou moins fondée, etc. Et j'aimerais bien qu'en tant que personnel de santé, infirmière urgentiste et être humain, tu nous dises la prochaine fois ton analyse de ces phénomènes et quel regard tu poses sur tout ça. À la prochaine fois.
À la prochaine, mais avec grand plaisir.
Et voilà les amis, rendez-vous est pris avec Anita qui, au prochain épisode, nous expliquera pourquoi elle s'est vaccinée. Anita, avec qui on a aujourd'hui pu discuter en face à face et non pas par Internet, parce que nous sommes vaccinés tous les deux. Même si le vaccin n'est pas une solution idéale, d'ailleurs, une solution idéale, il semble pas y en avoir, mais le vaccin nous permet au moins de ne plus être en prison chez nous et de vivre à peu près normalement. Alors, c'est pas que nous soyons fans de piqûres ou des valets de Big Pharma, mais nous faisons partie de ces gens qui nous soucions des autres et qui avons tout simplement envie de continuer à faire société, à lutter ensemble sans contaminer personne. Anita vous rappellera notamment la prochaine fois que la plupart des malades de la Covid en réanimation ne sont pas vaccinés. On en reparle donc la prochaine fois. Conversation à réécouter sur notre site polymixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début dans la mesure du possible. Salut.
Radio-VOIP. Radio G. www.radio-g.fr.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews.